Bonsoir, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est Rayon d'Action, un rendez-vous que vous propose désormais APF France Handicap. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec les rubriques que vous retrouverez désormais les quatrièmes jeudis de chaque mois. Merci, merci infiniment à Radio Campus de nous recevoir dans ses studios. Merci également à la Direction Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et au Sport, qui subventionne le projet, si vous préférez, la Dragesse. Alors, au programme, écoutez bien, nous avons le billet d'humeur avec Catherine, Route Secours, une chronique présentée par Philippe. Philippe nous dira également pourquoi il en connaît un rayon. Marine et Thomas vous ont préparé un billet consacré au sport et à la culture pour tous. Enfin, nous recevrons aujourd'hui Hervé Rial et Émilie Jot qui viennent échanger avec nous au sujet de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap ainsi que le Duo Day. Je signale que Hervé Rial, ancien professeur de droit, est non-voyant. Et à tout de suite pour le Flash Info.
Catherine. Voilà ce qui m'amène. Où trouver un cabinet médical accessible? C'est la question qui m'est régulièrement posée lors de mes permanences à la délégation départementale d'APF France Handicap. Normalement, 66% des personnes en situation de handicap déclarent avoir des difficultés pour accéder aux soins. Pourtant, depuis septembre 2023, le ministère de la Santé et de la Prévention invite les professionnels de santé à renseigner le niveau d'accessibilité de leurs locaux sur le site santé.fr. Selon le Conseil de l'Ordre, 209 médecins généralistes sont inscrits à Angers, chiffre de 2021. Donc, en allant sur le site santé1.fr pour rechercher un médecin généraliste avec un cabinet accessible pour les personnes à mobilité réduite, la réponse est de 4. Comme qui dirait « élève doué, mais peut beaucoup mieux faire ». Si j'osais, je pourrais les orienter vers le cabinet vétérinaire le plus proche. En effet, la majorité des cabinets vétérinaires sont accessibles et disposent même d'une table d'examen élévatrice. J'envisage donc de faire l'acquisition d'un joli collier de cuir rose pour rester fidèle à ma couleur fétiche. Et ainsi équipé, je pourrais partager ces espaces de soins avec nos amis les bêtes, puisqu'en plus, il paraît que je suis myope comme une taupe.
Merci. Merci Catherine. Tout de suite, une pause musicale.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Je voulais expliquer la matière de ma spécialité, de ma spécialisation. Je voulais que c'est moi qui m'ont dit que ma vie est un peu de la Chine, mais je suis le Mauritanien. Mais j'ai l'air en bas chez les gays. Regardez à quel point je suis là. Voilà.
Voilà donc, c'était, vous avez reconnu Clandestino de Manu Chao. Clandestino, clandestin, les premières radios locales étaient clandestines. Alors c'est un petit clin d'œil aux toutes premières radios qui remontent à 1981. Nous allons donner la parole maintenant à Philippe, qui doit nous donner deux... Bonjour Philippe déjà.
Bonjour hein, à tous.
Et je te laisse la parole pour une chronique assez virulente.
Bien, ça concerne route secours.
Route secours, oui. Oui, d'accord. Non, voilà, Philippe avec sa roue de secours. Je te dis d'abord bonsoir, Philippe, et je te laisse à ta première chronique, car tu en as plusieurs en cette soirée.
Bien, écoutez, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Depuis peu, voilà. Je recommence. Philippe, depuis peu, le gouvernement Barnier est là.
Ouais, vive Barnier.
Youpi.
Au sein des gouvernements précédents, le handicap était dévolu à un ministre auquel était adjoint un ministre délégué ou un secrétaire d'État chargé des personnes âgées et des personnes handicapées. C'était le bon temps. Très rapidement après la proclamation du gouvernement, nous constations tous éberlués que le mot « handicap » ne faisait plus partie du vocabulaire gouvernemental. Nous disparaissons du paysage politique, rapidement éradiqué. Nous sommes maintenant rattachés au ministère des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité hommes-femmes. Un ministre délégué est chargé de la famille et de la petite enfance et un secrétaire d'État en charge l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est clair, nous sommes virés.
En parcourant le nouveau site de ce portefeuille pour chaque rubrique des objets de ce ministère, eh bien, écoute, des actions fortes sont affichées.
Et sous le titre handicap, au premier abord, il n'y a aucune rubrique. C'est un blanc. C'est le reflet de l'engagement du ministère vers les handicapés. La pensée gouvernementale est vide de pensée. Il faut cliquer sur le mot handicap pour enfin voir les actions.
Mais le handicap a été une grande cause nationale, me semble-t-il.
Eh oui, en 1995, puis en 2003. En 2021, ce fut une priorité du quinquennat clairement affichée. Aujourd'hui, la fraternité de notre devise est difficile à maintenir. Les plus faibles sont donc effacés du paysage politique.
Il y a eu les Jeux Paralympiques avec une forte participation, n'est-ce pas ?
Oui, nous les avons cru réussis pour célébrer l'intégration du handicap dans la ville et dans nos vies de tous les jours. Mais ce feu d'artifice a juste produit aujourd'hui une extrême déception. Celle de fusée d'artifice mouillée par notre amertume actuelle. Dans le triptyque solidarité, autonomie et égalité, nous sommes placés au fond du couloir à gauche, sous les combles. Auparavant, nous avions quand même cette porte où nous pouvions frapper.
Mais frapper pas trop fort.
Pas trop fort quand même.
Nous comprenons bien que la noblesse des termes solidarité, autonomie et égalité seront prioritaires. Paradoxalement, le handicap est un sujet transversal à tous ces objectifs. Il est donc incroyable et déconcertant que cet enjeu sociétal ait pu être ignoré de nouveau du nouveau gouvernement Barnier par l'oubli d'un secrétariat d'État.
Alors, oui, que deviendra l'annonce d'Emmanuel Macron relative à la gratuité des fauteuils ?
Là aussi, certainement, le paix d'une chambre à air surchauffée. Maintenant, nous aurons peut-être un simple agent pour répondre au téléphone, sans plus, restriction de budget oblige.
En 2035, selon l'INSEE, 25% de la population française aura plus de 65 ans.
Eh oui, et ce seront 18 millions de personnes âgées qui subiront le vieillissement naturel et potentiellement seront en situation de handicap. Vous ajoutez 12 millions de personnes handicapées, vous êtes à 30 millions, soit 43% de la population française sera en situation de handicap.
Oui, bon, hey, Philippe, si en 2035, dans 10 ans...
Oui, bien sûr, mais un gouvernement doit être aussi responsable de ses aînés et prendre en compte dès maintenant ce phénomène démographique annoncé. Ce type d'attitude ressemble trait pour trait à celle de l'accessibilité des établissements recevant le public. Après 9 ans sans rien faire, l'État découvre en 2014, presque stupéfait, que les prescriptions d'accessibilité de la loi 2005 ne sont pas observées dans le délai prescrit des 10 ans. Il s'ensuit la promulgation d'une ordonnance, in fine, plus de 10 ans de retard dans la démarche.
Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, pas facile à dire, a été nommée ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap le 27 septembre 2024.
Après de nombreuses critiques sur la non-présence d'un ministre chargé des personnes handicapées, le portefeuille est attribué à Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, qui devient ministre déléguée une semaine après les confrères et sans connaître de près le handicap. Ouf! Enfin, une roue de secours pour les handicapés.
Alors, on y va ?
Ouais !
Roue de secours ! Roule ma poule !
Donc, ta deuxième chronique, mon cher.
Alors là, j'en connais Philippe. Un rayon. Hein, et voilà. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler d'épaves.
D'épaves ?
D'épaves.
Qu'est-ce que ce truc-là ?
Mais oui, vous savez, les containers qui sont placés sur les trottoirs pour déposer nos déchets. Il y a ceux pour le verre, le recyclage et l'alimentaire.
Mais c'est le tri dit sélectif.
Les épaves, ce sont des points d'apport volontaire. Ce sont des bornes groupées de couleur grise avec un container enterré. Seul le point de dépôt des déchets alimentaires se distingue par une pédale de couleur orange vif sur le devant. Elle vous permet d'ouvrir le tiroir rotatif. Sinon, vous l'ouvrez directement à la main. Il n'y a pas de critère de distinction pour le recyclage et le verre, et l'identification est difficile. Les opercules de fermeture sont quelquefois différents, sans pouvoir appliquer une règle stricte. Voilà ce que sont les points d'apport volontaire.
Volontaire ? Mais on n'a jamais rien demandé à personne, nous !
Cette méthode n'est pas anodine pour les personnes âgées et celles en situation de handicap. Elles rencontrent des conditions difficiles. Tenez, Yvonne a 80 ans. Elle est appareillée d'une prothèse de hanche et marche avec une canne. Elle porte aussi des lunettes. Comment fait-elle pour appuyer sur la pédale ou pour tirer le tiroir pour déposer son sac de déchets alimentaires dans le tiroir en restant dans un équilibre fragile sans tomber ? Comme Marcel, malvoyant, qui hésite toujours pour bien mettre ses déchets là où il faut. Les visuels, il ne les perçoit pas, il ne perçoit pas les contrastes. Il a une vision restreinte et floue. Pour finir, il y a aussi Velcro, le chien guide très attachant de Raymond, qui s'est entaillé les coussinets de pâte sur un tesson de bouteille, devant le point dédié au verre. Il a fallu le soigner rapidement.
Bon allez, revenons à Dame Yvonne.
Les points d'apport volontaire ont été installés juste en dessous ses fenêtres. Mais oui, venez voir, Richoudieu, ils sont là. La mise en place a été annoncée par simple photocopie déposée rapidement dans les boîtes aux lettres. Il n'y a eu aucune concertation de la part de Angéloire Métropole. Alors l'été, lors de la canicule, quand Yvonne ouvre ses fenêtres, elle a le fumet délicat de la fermentation des déchets et les mouches bleues qui l'accompagnent. D'autres, dans les étages supérieurs, ont la distribution gratuite de CO2 dans les logements avec les échappements verticaux des camions. Pour tous, il y a un vacarme, des manœuvres de vidage, des conteneurs dans le camion. Nous avons encore eu dernièrement des collectes à 5h30 du matin. Pour certains, la pollution visuelle est aussi importante dans une ville dont les bâtiments sont majoritairement protégés, sans parler des débordements récurrents de sacs poubelles sur le trottoir. Le confort d'usage et la qualité de service pour les habitants, comme pour les personnes en situation de handicap, n'ont absolument pas été pris en compte.
Alors doit-on continuer cet objectif d'installation de PAV, de PAV ?
Cette question très claire doit être posée à M. Christophe Béchu, le nouveau maire et président de l'agglomération. Accepterait-il ces mêmes implantations et conditions de vie juste sous ses fenêtres ?
Très juste. Nous avons tous une idée de la réponse.
Nous dénonçons depuis toujours l'absence de réglementation qui encadre la conception, l'implantation, le confort d'usage et la qualité de service de ces procédures de collecte de déchets.
Mais il y a le Code général des collectivités territoriales, n'est-ce pas ?
Absolument. L'article R. 2225-24 stipule que les installations doivent avoir un niveau de qualité et de service à la personne équivalent à ceux de la collecte en porte-à-porte. Actuellement, nous constatons que ce n'est pas le cas. La vérification de la liquidité du mode de collecte devra être appréciée à l'aune du principe d'égalité et du principe de non-discrimination. Voilà, une nouvelle fois,
Jean-Claude Rayon.
Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Raconte-nous l'enfant que tu étais, courant du sable fin aux galets. Parle-nous de ces jeunes gens sautant les feux de la Saint-Jean. On pouvait croire au paradis en ce pays. Chante-nous si tu t'en souviens pour passer le ras de Saint, le cantique à Sainte-Marie qu'on ne chante qu'ici. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La peine et l'ennui de l'automne à l'été, on ne vit qu'au rythme des marées. De la naissance au grand sommeil règne le flambeau de la vieille. On mêle la cannelle au parfum des chandelles. On dira pour embarrasser la mort, joie au trépassé, car sur cette terre fidèle, les âmes vont au ciel. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. Quand le jour s'achève au-dessus de la grève, sur la pierre écorchée de l'île, on croit voir au fond de la brume comme des feux qu'on allume, ou la barque ensorcelée qui apparaît menaçante. Elle vient jeter la peur sur les naufragés. Le noir habille la vie des femmes du pays. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Sur de belles légendes illuminant son histoire, gravées dans la mémoire des femmes qui attendent les marins d'île de Saint. La vie a changé sur le court chemin du Nérote à Saint-Corentin. On ne reste plus très longtemps isolé du continent, même les anciens ne reviennent qu'au printemps. Et la mer a tourné le dos aux pêcheurs des temps nouveaux, elle entraînera les marins loin de l'île de Saint. Marie-Jeanne Gabriel, entre la mer et le ciel, battue par tous les vents au ras de l'océan, ton pays s'est endormi. Il garde son histoire au plus profond des mémoires. Et l'on dit à Paris qu'il est beau le pays des marins, l'île de Saint.
Voilà, c'est Louis Capard que nous venons d'écouter. Peu de personnes connaissent Louis Capard. Je m'en aperçois autour de cette table. C'est un chanteur breton et le titre, c'est Marie-Jeanne Gabriel. Et si je vous posais la question, pourquoi Marie-Jeanne Gabriel? Ce sont les prénoms de sa maman. Voilà, on a terminé avec la Bretagne. Vous écoutez toujours Rayon d'Action, émission conçue et réalisée par AFP France Handicap Angers.
APF France Handicap.
Oui, madame, c'est ce que je viens de dire. Non, j'ai pas dit ça. On a les points liés ici. Eh bien, bonsoir Marine, puisque c'est toi maintenant qui va nous proposer la question de sport, là, quelque part.
La chronique pour le sport et la culture pour tous.
Pour toutes et tous. Bonsoir. Écoute, je te laisse à tes commentaires.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre chronique dédiée au sport et à la culture pour toutes et tous. À mes côtés, Thomas, mon binôme dans cette chronique. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Marine.
Avant de laisser la parole à Thomas et de lui poser quelques questions dédiées au sport, je tenais à vous proposer un petit manifeste. Le sport et la culture pour toutes et tous est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Droits fondamentaux faisant partie de notre société, ils sont vecteurs de liens sociaux et des moyens d'émancipation. Pourtant, leur accès reste inégal. De nombreuses personnes en situation de handicap rencontrent encore et toujours des obstacles pour accéder à des équipements et des structures sportives, des lieux culturels, œuvres et événements. Les défis à relever sont nombreux. Heureusement, de nombreuses initiatives inspirantes voient le jour pour rendre le sport et la culture inclusiverselles, comme nous les aimons bien l'appeler, accessibles à toutes et à tous, sans distinction d'âge et de milieu social. Un engagement collectif est nécessaire pour offrir à chacun et chacune l'opportunité de vivre pleinement, sans distinction, en étant tout simplement accessible. Pour cela, il est essentiel que chacun s'engage, les pouvoirs publics, les institutions culturelles, les associations, les citoyens.
Merci Marine, ces mots sont très importants. Et maintenant... C'est en lumière. En lumière.
Effectivement, ces mots mettent en lumière notre engagement associatif.
J'aime particulièrement le sport pour...
Souhaites-tu que je le définisse, Thomas ?
Ouais, je veux bien.
Alors, pour reprendre la main un petit peu sur Thomas, le sport et la culture pour tous et toutes est une approche inclusive de l'activité physique, permettant à chaque individu de le pratiquer dans un environnement adapté, dans un esprit respectueux et solidaire. Donc ça, c'était la petite définition qu'on voulait vous donner avec Thomas, qui était importante pour nous. Maintenant, Thomas, est-ce que je peux te poser quelques questions ?
Oui.
Pourrais-tu me dire, toi, quel est le sport que tu pratiques ?
Je pratique le foot fauteuil.
Alors, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un petit peu le foot fauteuil ?
Alors, le foot fauteuil, ça se pratique à 4 contre 4 dans une salle. Et il y a des championnats... de France, il y a même la Coupe du Monde, et il y a même la Ligue des Champions.
C'est très intéressant tout ça, Thomas. Si je me trompe pas, t'es champion du monde, toi ?
Oui.
Ah oui, carrément.
Depuis 2023.
C'est génial.
Bravo, Thomas.
Voilà. Une question en t'écoutant me vient. Peut-on pratiquer le foot fauteuil partout en France ?
Oui. Oui, mais... C'est très dur de créer un club en France parce que le foot fauteuil, ça coûte très cher. Pour pratiquer le foot fauteuil, c'est un fauteuil spécial qui coûte 14 000 euros.
Ah ouais, quand même.
Est-ce que toutes les personnes en situation de handicap peuvent le pratiquer du coup ?
Oui.
Est-ce que la Fédération française de football vous donne quelque chose?
On aimerait bien, mais malheureusement, ils ne nous donnent rien.
Voilà, bonne surprise.
Ah, c'est à géométrie variable, tu t'appelles pas Mbappé, mon ami.
J'aimerais bien m'appeler Mbappé, mais je m'appelle pas Mbappé.
Tu seras allé à Stockholm.
Thomas, est-ce que tu peux me dire, toi, où tu pratiques le foot fauteuil?
En fait, tous les lundis, je vais à Nantes pour m'entraîner et on se déplace avec mon équipe un week-end par mois en général. Mon premier week-end, d'ailleurs, sera le 25 janvier à Nantes.
C'est super tout ça. On va venir t'encourager. Hein.
On ira faire les pom-pom girls, Thomas.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les perspectives que tu envisages, toi, dans le foot fauteuil?
Bah déjà, j'ai pas mal de casquettes parce que je suis responsable des arbitres français. Donc j'ai 18 arbitres à gérer. Et je suis aussi joueur de l'équipe de France. Et je suis entraîneur de la 4e équipe de mon équipe, de mon club.
C'est super tout ça, toi.
Ah oui, quand même. Petit cachotier, tu nous avais pas tout dit.
Et quel est le nom de ton club,
Nantes Foot Fauteuil.
Ok.
Ok. Bah écoute, merci Thomas pour cet échange très intéressant, qui en inspirera, j'en suis sûre, plusieurs.
Merci à vous.
N'oublions pas que c'est ensemble qu'on fait de grandes choses. Ouvrons-nous des portes, tendons la main et avançons ensemble. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.
À bientôt.
Oh, I got a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting hotter. Oh, it's only getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Bought it a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. Guitar and ties in my car. I got most of the memes and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy. And nothing's gonna bring me down. I'm about to blow it out of hand. Nothing's gonna bring me down. Boys, the best of all, I've got my
Voilà, il s'appelle Paolo Nutini, certains le connaissent, c'est un chanteur irlandais d'origine italienne. Il remplit les stades en Irlande. Nous allons maintenant recevoir Hervé Rial, ancien professeur de droit et non-voyant, accompagné de...
Émilie.
Vous dites oui.
Oui, Émilie Jo.
Excuse-moi, parce que j'ai 50 papiers et...
Voilà.
Il y en aura beaucoup moins la prochaine fois. Bonsoir d'abord.
Bonsoir et merci de nous avoir invités. On est très contents d'être là.
Je vous laisse en compagnie de Marine.
Donc,
c'est pour Marine.
Ce soir, Émilie et Hervé viennent nous parler tout particulièrement de cette semaine de novembre qui concerne l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais Émilie et Hervé représentent l'association HappyDV. Donc, pouvez-vous me dire, d'après ce sigle, quelles sont les grandes actions qui concernent votre association ?
Alors, HappyDV, ça veut dire accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels. Alors, les grandes cibles de notre action, elles ont un peu évolué au fil des besoins des déficients visuels. Aujourd'hui, on a toujours une grosse part autour du livre, c'est-à-dire du livre scolaire, du livre universitaire, du livre de distraction, avec du braille, du sonore, pour permettre aux déficients visuels d'accéder aux mêmes ouvrages que les autres. Et aujourd'hui, avec des adaptations difficiles, on a une section à Paris qui s'appelle Transcriptio, une autre qui s'appelle Baisser les barrières, pour aider les lycéens et les étudiants. C'est notre première action. La deuxième action, elle est commune avec vous, c'est la sensibilisation au handicap, et notamment dans les écoles. Sur Angers, on travaille sur une opération qui s'appelle École et cinéma, avec l'éducation nationale notamment. On fait audio-décrire des dessins animés, enfin des films d'animation, pardon, par des enfants. Et puis, on a effectivement cette action en faveur de l'emploi que nous développons à Paris depuis 2008 et à Angers depuis 2018. Voilà, les grosses actions d'HappyDV, il y en a d'autres bien sûr, mais je résume, Catherine.
Donc, Hervé, toi, que penses-tu de cette histoire dans la semaine du 18 au 22 novembre ? Il y a le fameux duo day de la journée du 21 novembre. Alors, pour toi, c'est un artifice supplémentaire ou c'est un réel coup de pouce ?
Non, je pense que ça peut être un réel coup de pouce si... je pense que l'emploi des personnes déficientes visuelles, c'est faut qu'il y ait une espèce d'alchimie entre l'employeur et l'agent. Et du coup, bah, d'une part, l'employeur va apprendre des tas de choses en passant une journée avec un déficient visuel. Hein, je pense à un camarade qui a passé l'année dernière avec un ministre, hein, une journée. Il ne cherchait pas d'emploi, mais ça a quand même appris des choses.
Ça a dû le changer, ça.
Voilà. Et c'est pour la personne handicapée, l'idée de « je peux faire, je ne peux pas faire hein. ». Je pense à un jeune que j'accompagne qui a voulu aller dans le commerce et qui a passé 3 jours dans le commerce et il s'est rendu compte qu'il pouvait difficilement quand même tenir la caisse dans un commerce. Donc, quelquefois, ça peut provoquer des désillusions, mais au moins, ça permet d'avoir une idée d'insertion plus réaliste, à mon avis.
Émilie, quel est votre regard, vous également, sur le sujet ?
Alors, moi, je trouve ça intéressant donc, pour la personne avec une déficience visuelle, mais aussi pour l'employeur, l'entreprise qui va accueillir. Parce que souvent, on a des préjugés sur la personne handicapée et ça va aider à faire baisser les barrières. Voir que cette personne... La personne, c'est pas son handicap, il y a une personne derrière. En fait, on met en avant cette personne et ses compétences et en allant partager une journée, on partage sa personnalité, sa valeur, sa compétence. Et on va au-delà du handicap parce que ces personnes qu'on accompagne ont un réel potentiel, des grandes capacités d'adaptation et je pense que ça provoque ça, le duo day. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui.
Bon, effectivement. Bon, alors... Merci beaucoup pour cet éclairage sur le sujet.
Je me permets juste de réagir 30 secondes. Le duo day, je l'ai vécu également de mon côté, il y a quelques années. Pendant mes études dans le graphisme, je ne savais pas encore vers quoi j'allais me tourner. Et ça a été une journée que j'ai vécue au sein de l'université à Angers, avec quelqu'un qui était graphiste en haut de l'université. C'était très intéressant, autant pour elle que pour moi, de découvrir la facette... du métier de graphiste au sein d'une université, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait être graphiste dans une université, mais découvrir tout le panel que j'avais devant moi. Et également, ce qui a été très apprécié par la personne qui m'a accompagnée, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée si elle nous écoute, mais quelques années après, j'ai un petit peu oublié son prénom.
Tu en gardes un bon souvenir.
Ouais, j'en garde un très bon souvenir. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que toute la journée, j'avais pu échanger avec la personne, lui parler de mon handicap, qu'elle découvre ce qu'était le handicap, parce qu'on en a parlé un petit peu sur tous les spectres, et de découvrir avec son équipe, nous, on n'avait jamais eu de personne en situation de handicap dans l'équipe, finalement, ça serait possible.
Marine, merci beaucoup. En fait, donc là, vous voyez au travers de ces trois discussions un éclairage différent. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Hervé, pour votre intervention. Donc, notre émission se termine.
Il n'y avait pas aussi au mois de septembre, il me semblait qu'il y avait une semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Hervé, Émilie, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
C'est en novembre.
Ah oui, en novembre.
C'est la troisième semaine de novembre et ça permet de donner des coups de projecteur sur les différents handicaps, sur l'emploi. On se rend compte que la déficience visuelle est parmi les handicaps les plus méconnus et on travaille beaucoup sur la question de l'accessibilité numérique qui est évidemment un élément important, un levier très important pour l'accès à un emploi, parce qu'autrefois, vous aviez le standard, vous aviez tous ces métiers-là qui étaient très ouverts. Aujourd'hui, il n'existe plus guère, donc il faut inventer des nouveaux métiers pour les personnes déficientes visuelles pour qu'elles ne soient pas simplement assistées. Et donc, cette semaine pour l'emploi, ça peut être un moyen de réfléchir sur ces choses-là. J'ajoute que samedi, il y a une journée au Welcome où vous pourrez rencontrer des déficients visuels samedi 26 de 10 à 17 heures qui est organisée par l'association Valentin Huy. Alors pourquoi pas leur faire un petit coup de pub.
Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup Émilie pour votre intervention. Notre soirée va bientôt se terminer.
Non, ma chère amie, désolé de te... De te décevoir, non, ou d'oublier un peu de ton bonheur d'être à la radio cette journée, cet après-midi. Oui.
Vous excuserez quand même, chers auditeurs, c'est notre première, donc il y a un petit peu d'improvisation.
Oui, on entend un peu des... mais bon, non, nous avons maintenant l'agenda. Oui, vous avez l'agenda.
On n'a pas d'agenda.
Si, redis l'UOD, redis la semaine européenne de handicap.
Alors, comme prévu, voici l'agenda avec donc, Catherine.
Donc,
Catherine.
On vous rappelle, chères auditrices et chers auditeurs, donc cette semaine très importante du 18 au 22 novembre qui concerne la semaine européenne sur l'emploi des personnes en situation de handicap avec le DUOD du 21. Et le DUOD, pour petit rappel, c'est souvent France 2 pour ne pas les citer, qui vous permettent d'apercevoir des personnes en situation de handicap en duo avec les journalistes, et notamment lors de la présentation météo. Souvent, c'est là que nous apercevons des personnes qui peuvent intervenir sur cette question bien spécifique.
Et nous avons une petite chose quand même à rajouter en agenda sur le mois de novembre, qui est le Téléthon, qui aura lieu fin novembre, en date des 28 et 29 novembre. Donc nous vous invitons à vous mobiliser à leur côté. Nous, en tout cas, on sera de la partie.
Ah oui, tout à fait, Marine, avec ce fameux défi 24 heures qui aura lieu
à l'étang Saint-Nicolas, à Angers.
Eh bien, mes amis, c'était... Eh bien, mes amis, c'était Rayon d'Action que nous avons eu le plaisir de vous présenter ce soir. Notre prochain rendez-vous, j'espère ne pas dire de bêtises, est fixé au 21 novembre prochain. On m'applaudit, donc ça veut dire que c'est... Non, c'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. 28 novembre, c'est bien ce que je disais. Et nous étions très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Nous avons quelques progrès à faire. Mais nous avons été très, très heureux, personnellement, et je sais qu'autour de moi, autour de cette table. Merci à Sarah, à la régie, qui en était également à ses débuts et qui s'en est fort bien sortie. Merci à Hugo, qui nous a boosté, parce qu'il y a des moments de grande solitude. Merci. Enfin, merci à toutes, merci à tous, et bonne soirée. Merci.
Merci, au plaisir de vous croiser.
À bientôt.
Bonne soirée. Bye.